Jean Lorrain, La misère d'aimer, le scrupule. Il y avait déjà 5 heures qu'il marchait en plein soleil, le dos tourné à la vallée où il avait laissé aplati, comme écrasé au bord de ses quais pavoisés et remplis par la marée haute, la petite ville toute confuse des sonneries et des fanfares des régates. Et sur le plateau vallonné hérissé d'ajoncs, où il commençait à suer à grosses gouttes, il n'avait encore rencontré homme qui vive, hormis au ras de la falaise, des vols blanchâtres et fous de goélands. Déserte, immobile, sous un ciel d'un bleu de lin, comme voilé de chaleur, la campagne se déroulait devant lui. Carré d'avoine ici, champs de seigle plus loin, puis des landes incultes avec à perte de vue au-dessus de la verte et noirée des récoltes encore jeunes, le bleu de soie miroitant des vagues s'étendant en une longue et mince bande d'azur pâle entre la crête des falaises et le bleu lumineux du ciel. Parfois, un sursaut de terrain, une brusque échappée sur le large et la soudaine apparition de 6 lieues de falaise appuyant à pic sur le bleu de la Manche comme un grand mur de porphyre transparent et rougeâtre. L'avancée en retrait du cap d'Antifer se dressant à l'horizon. Effet d'optique, au pied de ces roches lumineuses, la Manche, entrevue comme une soie fluide, au-dessus de la jeune verdure du plateau, se durcissait et prenait la densité et l'éclat d'un dallage de lapis et devenait cette mer de gomme bleue qui baise et coupe à la base les falaises épiques de Gustave Moreau. Un Gustave Moreau devant les yeux, de l'air salé autour des tempes, des senteurs de miel dans la brise, et partout, au ras des seigles, des champs d'alouettes et de cigales. Charles Piller marchait en plein rêve. Néanmoins, le soleil tapait dur, la poussière et la chaleur commençaient à devenir suffocantes, et l'heure du déjeuner à se faire sentir. À l'aube, au départ, Piller s'était bien lesté d'un bol de lait sur le seuil de l'auberge, un bol de lait exquis d'ailleurs, chaud et fumant du pis de la vache, mais un bol de lait, quand on a 10 kilomètres dans les jambes, un appétit de 30 ans et une taille de 1,70 m, un bol de lait, quand on chemine depuis 5 heures en plein soleil, au grand air affamant des falaises, c'est maigre, et l'estomac du voyageur réclamait dur. Réclamation vaine, pas la moindre habitation à l'horizon. À gauche, devant lui, la ligne des falaises, la mer et le Gustave Moreau comme toile de fond. À droite, derrière, tout alentour de lui, la nappe immobile des récoltes piquées çà et là, de la tache vive d'une fleur, le calme plat, la solitude, un grand silence pétillant de bourdonnements d'insectes et de craquements de chaleur. L'alouette elle-même s'est têtue. Très loin, parfois, sur sa droite, un bouquet d'arbres qui savait être une ferme, mais une ferme inhabitée, abandonnée ce jour-là, les fermiers et leurs gens partis depuis l'aube assister aux régates et réjouissances de la ville. Il lui allait donc falloir rebrousser chemin en arrière et réavaler dans cette puissante et cette chaleur les 10 kilomètres si prestement enlevés dans la fraîcheur et l'air bleu du matin. Mais tout à coup, un bruit de grelots, un bruit puis celui de 2 roues criant sur le gravier de la route, et apparaît, filant au ras des avoines d'un champ, une petite charrette anglaise en bois de teck aux ferrures nickelées, luisantes comme des lames de rasoir. La charrette suit quelques chemins de campagne encaissés dans les récoltes et venant couper en oblique la route ensoleillée où il peine et maugré de fatigue et d'ennui. Il hâte le pas, arrive à temps dans la bifurcation des routes. Une femme est seule dans la charrette, toute sonnaillante de grelots. Une femme en robe claire, en grand chapeau de dentelle blanche, la coiffant comme d'un fol abat-jour. Elle ne conduit pas précisément bien, la robe claire. Elle tient ses guides comme un éventail et son fouet comme une canne à pêche. Mais elle est drôlette, très parisienne, très montmartroise même d'allure et de silhouette, dans sa petite carriole astiquée, brillante et vernissée comme un coûteux joujou. Et bip, hop, et hu, et le poney trottine, brinque-balle entre les brancards, comme secoué d'un fou rire, tant il trouve celle qui le conduit amusante et drôle. Et Pileur s'avance, et la charrette s'arrête, et un cri de joie, qui s'effare et ne veut pas y croire, gazouille comme une trille dans le silence bourdonnant de chaleur. « Mais c'est Charlet ! Mais c'est Lini Bajour !» Oui, c'était elle. Et maintenant qu'ils achevaient de déjeuner tous deux en tête à tête dans la petite salle de la ferme, égayés des gerbes de glaïeul dans deux gros pots de grès, maintenant que l'estomac repu et les forces réparées, il l'écoutait parler, tout en picorant des prunes un peu fendues, mais juteuses et sucrées à point, que la femme fermière venait d'aller cueillir exprès pour lui dans le potager, une tendresse et un désir le reprenaient à la retrouver si potelée, de chair plus rose et plus grasse, reposée en belle lit avec des bras ronds qu'il avait connus moins au cou, pointus au coude, des fossettes au menton qu'il ne lui avait jamais vues, et dans ses mains, aujourd'hui bien soignées, aux ongles taillés en amande, dans ses cheveux dorés, brillants, dans toute sa personne enfin, une odeur, un parfum de femme élégante et raffinée qu'il respirait à pleine narine, et il regardait en dedans du corsage, par les chancrures de sa robe ouverte, un tas de blancheurs et de roseurs qui s'étaient fort développés aussi depuis Montmartre et l'été de 1888 à Veul avec Robert et la bande Nemours. Lini Bajour ou le petit abat-jour, il avait surnommé ainsi, à cause de sa précise et fanfrelucheuse élégance, une façon à elle de s'habiller avec rien, qui la faisait ressembler dans ses robes ébouriffées d'étoffes claires, ses juponnages extravagants de danseuses et ses immenses chapeaux de gaz et de tulle autrefois, aujourd'hui de dentelle, un délicat et fantasque petit abat-jour, un abat-jour animé, dont son joli corps, transparent et menu de fillette amémiée, était la douce lueur, laiteuse et scélérate, l'éclairage d'amour. Lini Bajour traînait alors les ateliers de Montmartre, où sa ligne de cou et sa minceur charmante faisaient retenir ses journées à l'avance et montaient jusqu'à 10 francs d'heure la séance de modèle habillé. Mais la nuit, elle posait l'ensemble. Elle avait appartenu un peu à tout le monde, cette jolie Lini Bajour, pour ne faire de peine à personne. Pourquoi attrister quelqu'un? Ça coûte si peu de se laisser faire et c'est si dur de refuser. Or, elle avait été un peu à tous, excepté cependant à lui, Charles Pileur. Il était tout jeune alors, 22 ans, à ses débuts dans la capitale, sans grand argent et sans poil au menton. Et puis il avait toujours eu une répugnance à cause de Robert, l'amant en titre de Nini, un grand Américain qui faisait le portrait et qui, peu délicat, passait pour envoyer volontiers sa maîtresse emprunter de 2 à 10 louis aux amis que Nini avait obligés. Il les rendait quelquefois, il est vrai, ces louis, et traitait royalement la bande aux rats morts, et même chez le père Lataille, quand il parvenait à décrocher dans le quartier de l'Étoile, chez quelques compatriotes lancés, un portrait payeur et payé, mais Les gens citaient que Robert avait toujours oublié de régler. Il faisait pis parfois, ce grand formant de Robert. Lors de leur saison à Veul, en Phalanstère, dans une maison louée à frais communs auprès des saisonnières, toute la bande, une fois là installée, ne s'était-il pas avisé de faire passer Nini pour sa sœur, Miss Fanny Roberts, et de la produire sous ce faux nom au casino de Saint-Valéry, où il était lié avec des couples bourgeois mariés, décrochant par là la confiance et des commandes dans des milieux honorables. Donnez-moi de l'argent, car j'aime bien ma sœur. La robe de bal de Nini Bajour pour la fête des élégrégates de Saint-Valéry-en-Caux, tout l'atelier, non, toute la bande des amis y avait travaillé. Une robe japonaise en crépon gris de cendre, 30 francs au Mikado, que Robert savait retrousser et ajuster lui-même sur 20 mètres de tulle à travers lesquels ils avaient tous fignolé de leurs plus jolis coups de pinceau des roses trémières jaunes, les bras nus et coiffés à la Vierge sans un autre bijou que deux chaînes de montre dans ses cheveux tressés. Elle était divine le soir, la petite Nini, la fille du régiment, comme il l'appelait. Aussi, pour la conduire au bal, ils s'étaient tous cotisés. La voiture de Master et de Miss Roberts s'est avancée. Et lui, Roberts, de frais rasés, insolent de fraîcheur, avec son teint d'anglo-saxon et ses cheveux au burn, s'était installé, bien ganté, en habit, cravate blanche, dans la calèche qu'ils avaient tous payée de leur denier. Comme c'était loin. Il l'avait d'ailleurs un peu vendu cet été-là à Saint-Valéry, leur joli Nini Robert, ce Robert et lui vendu au fils d'un gros filateur de Rouen, un charmant garçon rencontré au bord de la mer, et qui paya 2 000 francs une aquarelle de Miss Roberts. Heureusement qu'il n'avait pas promis mariage. Roberts eût été homme à risquer le grand coup et à faire chanter, mais tout cela était fini. Grâce à Dieu, elle était sortie de la purée, comme elle disait elle-même, en s'accoudant à la petite fenêtre ouverte sur le verger. Elle en vint enfin trouver un amour d'homme, pas tout jeune, pas très beau, pas très malin, mais qu'il adorait. Il lui avait meublé un appartement et l'avait installé cette année dans cette ferme. Elle s'y plaisait beaucoup grâce à sa charrette et son petit cheval. Ça l'amusait follement de conduire. Il la laissait d'ailleurs bien tranquille. Il était parti de la veille et ne reviendrait pas avant le 20. Ils étaient le 12. Ainsi donc... Et comme grisé par la fine odeur de blonde et de jasmin qui s'exhalait d'elle, tenté par la solitude et l'occasion, le jeune homme s'accoudait lui aussi à la fenêtre auprès de la jeune femme et passait un bras autour de cette taille souple, la reniflant d'abord longuement à la nuque, puis approchant ses lèvres chaudes des joues et du menton, atteignait brusquement la bouche, une bouche humide et rose, savoureuse comme un fruit, et les mains, tout à coup fébriles, égarées, hardies, appuyaient ses lèvres à cette bouche et l'écrasaient dans un baiser. « Non, 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 pas cela, » dit-elle, tout à coup redressée avec une tristesse soudaine et toute la face et le sourcil barré et dur. « Je lui suis fidèle, pas ça, non, oh non, pas ça. » Et comme tout malheureux et penaud, il insistait du geste et du regard, les mains jointes en désespéré. Nini Bajour, tout naturellement inconsciente, avec un ancien, je ne dis pas, mais avec un nouveau venu, avec qui jamais avant, oh non, non, ce serait trop mal, ce serait alors tout à fait le tromper.